Un grand-mère disait, partout où il y a de l'espace, il y a des êtres qui souffrent. Partout où il y a de l'air, que des êtres respirent dans ce monde, dans d'autres mondes. Il y a des êtres qui expérimentent l'existence cyclique. Qui sont sous le pouvoir de l'ignorance, de la saisie dualiste, du karma, des perturbations mentales. Ils n'ont pas de choix. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas le bonheur autant que nous le voulons. Ça ne veut pas dire qu'ils souhaitent souffrir. Quand on dit ils sont exactement comme nous, ça doit nous ramener à une expérience pas seulement à un concept assez flou de l'existence et de la souffrance des êtres. Partout où il y a de l'espace, il y a des êtres qui souffrent. Partout où il y a de l'air, partout où les êtres mettent leurs pieds, partout où ils marchent, où ils nagent dans cette, sur cette planète, il y a des êtres qui souffrent. Vis-à-vis de la moindre contrariété personnelle, toute une énergie est mise en branle pour le plus rapidement possible, sans attendre, stopper cette souffrance. Comparativement à la souffrance des êtres, bien sûr, on ne peut pas comparer cette souffrance tellement, tellement petite, tellement minime. Dans cette perspective, quand on ressent partout où il y a de l'espace, les êtres souffrent. Le cœur prend cette dimension d'ouverture, cette dimension universelle. De ramener ça à la similitude de notre peur de souffrir, à la similitude de notre désir de bonheur. Donc en plus de cette expérience d'ouverture et d'espace, cette expérience est habitée par le fait d'être réellement concerné par leur souffrance et par leur bien-être. Et dès qu'on est concerné, donc on s'engage sur le chemin de la compassion. en général, régulièrement, on l'oublie. Donc, le seul but d'être ici, de méditer, de pratiquer. En fait, il n'y a pas d'autre but, pas d'autre raison que de soulager les êtres de leur souffrance et des causes de leur souffrance. Autant que possible, essayer de les amener au bonheur ultime. Donc on génère du fond du cœur cette motivation, maintenant, sans attendre, de façon aussi authentique, aussi sincère que possible. Parce que trop souvent, nous oublions cette souffrance des êtres. Il y a comme en nous une porte qui reste toujours fermée. Pourtant, derrière cette porte, il y a une telle puissance d'action dans notre vie. Découvrir une telle... une telle puissance, un tel pouvoir, un tel potentiel de création. Évidemment, ce pouvoir n'est autre que l'immense compassion qui est en nous. La compassion identique, dans sa nature, identique à celle de tous les Bouddhas. De tous les maîtres. Donc, faire ce chemin de prendre conscience de la souffrance des êtres nous amène à ouvrir notre cœur, à ouvrir la porte intérieure et reconnaître cet incroyable potentiel. Donc nous pouvons décider de faire ce week-end de méditation un peu comme une petite retraite. Avec autant d'intensité afin de déguiser l'épée de la sagesse qui tranche la conception erronée de l'existence en soi. ou du feu, d'attiser le feu de notre sagesse intérieure qui discrimine, qui ne se laisse plus tromper par l'apparence de l'existence véritable. On pourrait appeler ça peut-être la retraite de la suspicion, du doute. Réellement essayer de développer le doute quant à quant à l'apparence de l'existence véritable. Ce qui nous apparaît, ce qui apparaît à notre esprit pendant cette retraite. Donc, essayer de développer ce doute, cette sagesse discriminante. Et ne plus, comme dit Lama, ne plus être sous le pouvoir de l'objet en croyant à 100% à la réalité qui, de premier abord, nous apparaît, mais d'aller au-delà de cette apparence, donc, et que ce soit notre esprit qui contrôle l'objet, spécialement donc nos émotions perturbatrices, nos peurs. Cette, la conception limitée de nous-mêmes, mais aussi donc aller au-delà du pouvoir que les objets exercent sur nous, car on continue à croire à 100%, on continue à croire à 100%. Qu'ils peuvent être la cause d'un bonheur ou qu'ils peuvent être la cause d'une souffrance. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est juste ce que l'esprit projette sur l'objet, croyant à son existence véritable, croyant à son existence permanente, solide, autonome. Nous avons commencé par générer la compassion, car il n'y a pas de il n'y a pas de chemin possible il n'y a pas de chemin d'éveil possible si notre cœur n'est pas habité par cette compassion. Quelle que soit notre compréhension, quelle que soit notre, notre évolution, l'intensité de nos réalisations, sans la grande compassion. On dit la grande compassion qui différencie avec la compassion du Theravada. La grande compassion, donc, c'est prendre sur soi cette responsabilité. Donc, tout le long du week-end, pendant les enseignements de Geshe Lama, pendant vos temps de pause, pendant les méditations, toujours continuellement, donc rappelez-vous, le seul but d'être ici, c'est pour essayer du fond du cœur, mettre ma vie au service des êtres pour les soulager de la souffrance. En fait, on n'insiste jamais assez sur ce point. Et que cette motivation soit comme comme un guide ou comme un observateur qui amène la vigilance observer la qualité de nos actions et le pourquoi de nos actions, le pourquoi de nos assises, d'écouter les enseignements, de réfléchir, le pourquoi de toutes nos actions, même si, entre guillemets, elles peuvent sembler vertueuses. Souvent, Lama parle de la réalisation de la vacuité comme étant l'aboutissement naturel à un chemin qui comprend avant tout la dévotion, la purification et la grande compassion. En fait, la dévotion fonctionne sous l'aspect de recevoir la bénédiction du maître, mais aussi donc, comme on disait, avec la compréhension de ce que le maître représente, donc cette sagesse transcendantale. Donc on ne reçoit rien d'autre que la bénédiction de l'esprit, du Dharmakaya, de la claire lumière, de cette sagesse transcendantale, de la vacuité ultime, la nature ultime de l'esprit. Et pour donc recevoir cette bénédiction, nous avons besoin de la dévotion. Donc la purification passe à travers cette dévotion aussi. Aussi également de façon inconcevable par le pouvoir de la grande compassion. Encore donc, il faut insister sur la grande compassion. C'est-à-dire être capable de poser des actes comme des actes d'engagement sur le fait de renoncer à soi et faire passer l'autre avant soi-même. En fait, c'est là où réside tout le pouvoir de la purification. Car pour une fois, depuis les temps sans commencement, on concède au fait de faire passer l'autre avant soi et comme de s'effacer. De façon très subtile, ça agit sur une saisie de soi, quelque chose de très subtil. Nous ne voulons pas seulement nous satisfaire d'une érudition, d'une immense connaissance de la compréhension de la réalité de la sagesse de Shunyata. Donc pour réaliser cette nature, donc nous avons donc besoin de ce triple chemin de la dévotion, de la grande compassion et de la purification. Donc purification, donc c'est pour ça donc qu'on va aussi s'entraîner dans la pratique de Vajrasattva. Car en fait, c'est aussi de reconnaître que notre nature ultime n'est rien d'autre que cette sagesse transcendantale. Et donc, la retrouver en soi, donc, passe à travers ce chemin de purification. Est-ce que ce que Lama disait qui était, qui était en même temps très encourageant, il disait si réellement on s'entraîne avec force, persévérance, bien sûr pendant une longue période d'intense purification, avec une dévotion sans faille, authentique, et une compassion qui vient du plus profond du cœur. Alors, elle m'a dit, juste de lire, par exemple, la forme est vide, juste cette simple phrase, parce que le terrain intérieur est prêt, parce que l'esprit est totalement prêt. Alors il y a une chance, il y a l'opportunité, juste en lisant cette phrase, de pouvoir réaliser la vacuité. Une fois, Lama m'avait demandé de demander à un grand maître, à Chodron Rinpoche, les instructions pour réaliser la vacuité. Et Chodron Rinpoche, en fait, avait exactement donné comme méthode ça. Donc, voir son maître indissociable de Manjushri. Donc, Manjushri, c'est l'aspect de la sagesse, Bouddha. De générer donc une dévotion extrêmement puissante, extrêmement stable, basée bien sûr sur la compréhension. Donc après, il avait dit, intense purification, prosternation, 35 Bouddhas, Vajrasattva. Aussi, accumulation de mérite, offrande du mandala, chose comme ça, intensément. Et aussi, bien sûr, donc, pour accumuler les mérites, l'énergie positive. Générer la grande compassion pour le bien des autres. Et de méditer, il avait conseillé aussi de méditer, donc sur... on essaiera de le faire pendant ce week-end. Donc, ce qu'ils appellent, on génère le jeu émotionnel, on génère une émotion, soit d'aversion, soit de désir, et après, donc, on essaye de voir où est ce fameux jeu, ce jeu émotionnel. Donc essayer de progresser sur le chemin de la compréhension, de la sagesse, de la vacuité, essentiellement. Donc c'est pour desserrer l'étreinte de la saisie dualiste, de cette saisie qui voit l'objet de son désir, l'objet de son aversion comme existant en soi. Aussi à travers... l'image tellement tellement concrète de nous-mêmes. le concept de nous est comme un bloc de béton. Tellement difficile à porter. Non seulement difficile à porter, mais comme il est si lourd, en fait, ça nous fait que on ne peut pas supporter la moindre remise en question, la moindre critique. En fait, on voit que c'est source de toute notre souffrance, de notre inconfort au quotidien. Non seulement ça nous limite, ça nous empêche d'aller plus loin, mais aussi ça nous rend tellement tellement prisonniers de ce fardeau. Et donc, dans un sens, on voit aussi que, comme disent les maîtres, on peut voir à quel point la sagesse nourrit la compassion et la compassion nourrit la sagesse. Vraiment deux choses qui vont réellement ensemble. Donc, si vous voulez, on va ensemble lire le Sutra du cœur. Quand on dira 1, 2, 3, 4, à la quatrième strophe, à la quatrième paragraphe, la forme est vide, sa sainteté, mais juste un petit commentaire, la forme est vide, c'est-à-dire non séparée, non indépendante, cette forme dépend d'une multitude de causes et de conditions. Donc après, quand on dira de même la sensation, donc on pensera non séparée, non indépendante, etc. L'identification, donc non séparée, non indépendante, dépend d'une multitude de causes. C'est-à-dire, il y a la forme, comme ça, tout d'un coup c'est comme un petit bloc. Et puis quand on dit non séparée, non indépendante, dépend d'une multitude de causes et de conditions. Pardon. Je vais tout casser. Ça devient de l'espace, vous savez, il y a de l'espace. Donc, forme, sensation. Donc, ça amène toujours à l'espace, à de l'espace où il y a le mouvement. Et après, la forme est vide. La vacuité comporte la forme, c'est-à-dire que toute chose vient de ce vide. La forme ne peut venir que à travers ce vide, c'est-à-dire ce vide d'existence inhérente. Donc quand on dit la vacuité comporte la forme, c'est-à-dire que il n'y a pas autre chose que la vacuité dans la forme. Et que la forme vient de la vacuité. Ok. Donc peut-être cette partie-là, on la lira juste un peu plus doucement pour un peu méditer.